wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, en public, au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Muriel Joudet, Florence Coulombanier, Lucille Como, pour parler ensemble de Synonyme de Nadav Lapid, Los Silencios de Béatrice Seignier, un coup de cœur de Muriel Joudet pour The Intruder de Roger Corman en DVD chez Carlotta, et il y aura un petit salon de Lucille Como sur le thème « Comment filmer les gilets jaunes ». Nous ouvrons cette dispute avec Synonyme de Nadav Lapid, film lauréat de l'Ours d'Or du dernier festival de Berlin. C'est le troisième long métrage du cinéaste israélien. Nous avions parlé des deux premiers films de Nadav Lapid dans la dispute. Alors pour rappel, parce que maintenant nous faisons un peu de rappel, parce que la radio a aussi de la mémoire, sur Le Policier, Charlotte Garçon parlait d'un film très novateur, une mise en scène en diptyque qui en disait long sur la scission du pays. Antoine Guillot, lui, trouvait le film un peu raté car trop rhétorique, mais... Il se pensait que Nadav Lapid captait quelque chose de très fin sur la société israélienne, sur son malaise. Nous avions parlé ensuite de l'institutrice, Charlotte Garçon, toujours. Nadav Lapid confirme qu'il est un grand réalisateur en devenir. On va voir ce qu'il en est. Pour Antoine Guillot, un film fort et complexe, mise en scène passionnante, beauté incroyable. Voilà. Concernant Synonyme, on va voir ce que vous en direz, qui sera donc rappelé peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, par moi, par quelqu'un d'autre. On va suivre un jeune homme, dont on va vite découvrir que c'est un ancien soldat de Tsahal, qui s'expatrie en France, qui arrive à Paris, qui décide de ne plus prononcer un mot d'hébreu pour rompre avec son pays. Premier tour de table, vraiment une phrase qui donne peut-être un aperçu de votre pensée, mais qui donne surtout envie d'entendre son développement. Concernant ce film, Muriel Joudet ?
En quelques mots ?
Phrase.
Ah, c'est très bien. J'aime beaucoup.
D'accord. Non, j'ai toujours du mal à penser de vous écouter en quelques...
Non, non, je trouve
d'accord,
ça...
Alors, on va
c'est
voir...
un film qui pense en direct, voilà, ça c'est mieux.
Bah, vous quand... développerez cette idée. Hein.
Oui.
Florence Colombani.
Oui, c'est un film très intense, très fort, et parlons-en davantage.
Lucille Como.
Oui, moi aussi, ça m'a assez passionnée, mais je pense qu'en parler risque de... Enfin, y a une telle complexité que le réduire à quoi que ce soit est compliqué. Voilà.
Is it you?
Je ne veux pas travailler.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses.
Qu'est-ce que tu vas faire ici ?
Je ne sais pas. Je serai français.
Ça ne suffit pas ?
Partir, repartir.
Pas de matin, hein ?
Attends, c'est bon.
Rouler, bien rouler, surtout en parlant d'une femme. La vie est sublime.
La France. Tu connais qui comme français à part nous deux ?
Céline Dion. Ne pas relever la tête.
En France, personne ne te demande quelle est ta religion. Parce qu'il n'y a pas de religion.
Abjuré, parjuré, abhorré.
Parce que Dieu n'existe pas.
Passez la carte.
Go away, Dad.
I'm going away. You won't find me.
Synonyme de Nadav Lapid sur les écrans depuis 10 jours déjà, donc pas mal d'auditrices et d'auditeurs ont peut-être déjà vu ce film, d'autres hésitent à y aller ce week-end. Ils vont vous écouter, peut-être nous écouter pour savoir. Florence Colombani, comment est-ce que débute ce film ? Comment est-ce que le spectateur y est accueilli selon vous ?
En fait, on entre dans ce film par effraction sur les pas de Yoav, qui est donc ce personnage principal joué par Tom Mercier, dont on va beaucoup parler parce que c'est un film qui est profondément incarné par ce personnage. Et donc, on est sur ses talons, dans la rue, filmé en petite caméra DV, avec une image volontairement très heurtée, très différente de ce qui sera ensuite l'image du film. Ça reviendra par petites touches, mais c'est pas du tout la dominante de la façon dont c'est filmé. Et c'est un début très important parce qu'on suit ce personnage qu'on comprend possédé par une énergie invincible. On ne sait pas où il va. Il se retrouve dans un grand appartement haussmannien totalement désert, un petit peu comme dans Le Dernier Tango à Paris. C'est le mystère de l'appartement désert. Et il a un gros sac à dos qu'on lui vole très vite. Et donc, de là, ce garçon se retrouve nu, recroquevillé dans une baignoire, dans un appartement vide. C'est à l'évidence une image de naissance. Et c'est une naissance à la fiction. C'est le début d'une histoire. C'est le début d'un univers qui se déploie. Et donc, c'est un début très fort et très captivant.
Muriel Joudet, on a évoqué à l'instant, par Florence Colombani, quelques-uns, ou au moins un des partis pris formels, c'est-à-dire à la fois cette caméra qui va suivre Yoav dans les rues de Paris, filmée toujours de la même façon, donc petite caméra qui bouge beaucoup, il faut pas lever la tête, ne pas lever la tête pour pas être submergé par la beauté de Paris. Quels sont les autres grands partis pris filmiques?
Je pense que Nadav Lapine l'explique bien en interview. Il dit « J'ai voulu filmer les scènes d'intérieur et les scènes d'extérieur avec deux caméras différentes. » Et je pense que son parti pris, c'est justement d'en avoir un pour chaque séquence. Et ça qui crée une sorte de sentiment d'hétérogénéité ou même de... En fait, on se sent un peu comme Yoav, c'est-à-dire toujours sur le qui-vive, toujours aux aguets. Et ça peut être un peu fatigant, cette manière dont qu'a le film de se réinventer en permanence. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est que Nadav Lapine comprend qu'une scène de promenade dans Paris, une scène de discussion dans un grand appartement bourgeois parisien, une scène de danse, ça ne se filme pas de la même manière. Ce qui donne l'impression vraiment de scène dispositif, notamment la scène où il se fait caster. Alors le
non, français. C'est bien.
Ça va, c'est bon.
Ouais, casting, on ça passe.
Voilà, par...
on fait la chasse aux anglicismes, je
c'est ça.
Précise.
Un homme un peu autoritaire, toujours. Et il finit vraiment par se doigter, il faut le dire, tout nu, il est au sol, devant la caméra, et on a vraiment l'impression d'être dans une sorte d'installation d'art contemporain. Et la scène d'après...
Non, je vous en prie, quand même pas ce genre d'image.
Installation
d'art contemporain pour parler de quelque chose qui, dans un film, est peut-être moins habituel que...
Non, dans le sens, dans la durée, je veux dire, il y a quelque chose où on installe la scène, un peu comme chez Bria, c'est-à-dire on fait durer la scène, et même chez Haneke, on fait durer la scène, on laisse finalement le personnage sans secours dans le plan. Voilà, peut-être que c'est un abus de ma part de dire art contemporain, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a l'idée de dispositif derrière le film. Moi, ça me déplaisait dans l'institutrice. Et là, je trouve que parce que toutes les scènes se réinventent en permanence, ça crée quelque chose de surprenant à chaque fois et d'hétérogène. Ça peut aussi agresser cette hétérogénéité. Moi, je la trouve très belle et assez nouvelle dans le cinéma français.
Lucille Gaumont, je ne voudrais pas réduire vos 17 pages de notes, mais,
ça
parle de quoi finalement ce film ?
Alors bon, c'est vrai que c'est très difficile à réduire et c'est même assez dommage en fait parce que cette hétérogénéité, elle est un parti pris formel qui fait le film. Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Alors pour réduire à trois, comme par hasard, trois. Je dirais qu'il y a il y a la piste identitaire parce que c'est en effet un jeune homme juif israélien qui se retrouve à Paris et il y a un fil tiré à partir de là qui est la question identitaire de ce que c'est qu'être juif, à la fois être juif en Israël et être juif en France. Avec moi, je trouve des scènes pour le coup des séquences qui sont isolables de la même manière, qui sont vraiment très réussies et très drôles. Moi, j'ai beaucoup ri de cette question-là. Notamment une, je décris une. En fait, il se fait un peu enrôler, plus ou moins malgré lui. Bon, c'est un personnage de toute façon dont on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut, par un groupe d'extrême droite israélienne. Et il se retrouve dans le métro avec un de ses personnages qui est un peu comme lui, ultra costaud et qui a une kippa sur la tête, et qui dans le métro se met à chanter la Moldao, donc l'hymne israélien, les dents serrées de manière extrêmement agressive en s'approchant extrêmement près des personnes dans le métro. C'est filmé de manière extrêmement saccadée et moi, je trouve ça très drôle. J'étais à peu près la seule à rire dans le cinéma, donc je suis pas sûre que ce soit très drôle pour tout le monde. Mais en l'occurrence, il y a un traitement assez ironique, assez burlesque de la question identitaire. Après, il y a, vous parliez de la scène d'ouverture, tout un volet mystique qui me plaît moins, qui est ce corps nu qui arrive d'un seul coup dans une genèse absolue. En fait, c'est un messie et on le comprend à la fin puisqu'il vient annoncer la fin ou du moins la décadence possible du monde européen, du vieux monde. C'est Tom Mercier, le corps neuf, le corps
corps vivant absolument érotique dans un monde vieux qui est en train de s'empâter absolument. Et c'est tout à fait lié, il y a aussi la piste cinéphile, c'est-à-dire que c'est un film qui regarde le cinéma français en particulier. C'est pas pour rien que Quentin Dolmer est son espèce de miroir, c'est le personnage masculin du film français, c'est un personnage bourgeois qui est empêtré dans des histoires familiales, qui essaye d'écrire un roman, qui n'y parvient pas. Et,
c'est un vieux personnage du cinéma français.
Tout à fait, d'un cinéma français. Bien sûr, mais ça fait référence à voilà, le cinéma de la Nouvelle Vague, le Paris du cinéma, de ce cinéma-là, c'est assez évident. Mais moi, je trouve ça assez, même, encore une fois, c'est drôle la manière dont c'est fait, ces discussions qui se trouvent en général. Moi, je trouve ça génial. Des personnages qui se parlent sur le Pont des Arts. Enfin, personne ne fait ça, se parler sur le Pont des Arts à Paris. Là, c'est évidemment un regard sur le Paris du cinéma et donc, du coup, sur le cinéma français et sur ce que cet acteur, mais on y reviendra, je pense, Tom Mercier, fait exploser absolument et aussi montre de terminer, de rance dans le cinéma français. Moi vraiment, ce film me passionne absolument.
D'accord. Alors, moi, j'ai retrouvé mes notes quand même sur le policier, l'institutrice, les précédents films de Nadav Lapine. Alors, si je les cite, c'est parce qu'en fait, elles résument un peu ce que je pense de ce troisième film. Pour le policier, j'avais dit à ce micro que c'était un ratage total. Mais je me demandais à l'époque si c'était juste naïf ou si c'était bête. Donc, ça, c'était un peu la question que je me posais. Je résume, évidemment. L'institutrice, un film qui était censé s'intéresser à la poésie brute d'un jeune garçon, donc révélé par cette institutrice, je trouvais que c'était une approche quand même du genre poétique qui était très très pauvre, et il y avait une prétention dans le film qui était extrêmement dérangeante, mais y compris dans sa mise en scène, hein, sa volonté de faire du cinéma, de faire des plans, et c'est ce qui vous avait, je crois, donc agacé, Maëlle Jodet, vous qui opinez. C'est vrai qu'il voulait tellement faire cinéma, Nadav Lapine, et là, Synonyme, pour moi, ça m'a alors véritablement exaspéré. Il me semble que c'est un film qui est symptomatique d'un mal assez profond qui touche le cinéma d'auteur mondial, de films, on va dire, pour festival. Parce que je trouve à la fois très racoleur, vous en conviendrez dit autrement, et surtout très faussement profond. C'est ça le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'est-ce qu'il a à me raconter. Je ne suis pas sûr qu'il ait grand-chose à me raconter d'intéressant, parce que si... on va sans doute en parler ensemble, mais il fait mine de bousculer les codes. En fait, c'est surtout le caméraman qui est bousculé quand il est dans la rue de Paris. Si on veut réinventer le naturalisme en disant « je fais pas eu naturalisme », ça me paraît une façon étrange de le faire. Et on voit bien, alors parlons de... J'allais dire Théo Mercier, mais c'est pas son nom.
Tom.
Théo Mercier, c'est un autre. On voit bien que Nadav Lapide, il est fasciné par son comédien. Mais c'est une fascination qui produit, en tout cas chez moi, vraiment pas grand-chose. Et il me semble que Tom Mercier fait ce qu'il peut, mais il n'y a tellement pas d'épaisseur dans le personnage. Avec vous dites, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Le type qui est en rejet d'Israël, le premier boulot qu'il trouve, c'est au consulat d'Israël. Enfin, à un moment donné, où soit on nous prend pour des idiots, soit il y a un sens de l'humour auquel peut-être le psychomo était beaucoup plus sensible que moi, mais qui m'est passé totalement à côté, ce qui est fort possible. Mais du coup, j'ai envie de vous écouter défendre ce film qui continue. Muriel Joudet.
Non, pour moi, c'est un rugbyman, Tom Mercier. C'est-à-dire que Nadav Lapide, c'est l'image qu'il veut donner à son cinéma. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de confrontation permanente. À la fois, les scènes s'entrechoquent, se confrontent les unes les autres. Tom Mercier entre dans Paris et dans le cinéma français avec vraiment l'envie d'en découdre. Donc, il y a vraiment pour moi l'idée de... J'en suis sortie en me disant, c'est un match de rugby. Avec tout ce qui fait entrer dans le film, la bourgeoisie, le Paris qu'on connaît, le Paris du cinéma. Et la manière dont Paris est filmé aussi, c'est... Moi, je trouve ça très très beau, c'est-à-dire que c'est une ville de survie. Et c'est peut-être la meilleure façon de la représenter, c'est une ville où on vit dans un 9 mètres carrés, en mangeant des pâtes. Là, quand Tom Mercier décrit exactement le prix des choses, ça je trouve ça très très beau. Et donc pour moi, il fallait un corps de taureau qui vraiment est très très érotique, très beau, très puissant, on le voit tout de suite nu, et il est vraiment imposant, il est impressionnant, et à partir de là, finalement, c'est la caméra de Nadav Lapide, tout simplement. Mmh. Et il rentre dans les choses, même d'ailleurs le dernier plan, si on peut le dire, c'est Tom Mercier qui frappe à la porte, une porte qui ne s'ouvre jamais, donc c'est ça pour moi, c'est rentrer dans les choses, et c'est un peu brutal, et peut-être que des gens n'entrent pas dans le film, parce que de toute façon, le film ne veut pas qu'on entre dans la fiction.
Oui, mais c'est pas un peu trop littéral, du
coup? Si, bien sûr, c'est totalement littéral.
Il y a énormément de choses de littéral, et par ailleurs, ce passage en force, il est fait pour créer de l'exaspération chez nous. Moi aussi, j'ai eu des moments d'exaspération. Oui, mais je suis fascinée par l'effet que ça peut produire chez moi, aussi d'énervement, de fatigue face aux effets, à une sorte, justement, en effet, de naïveté sur le romantisme, parce que c'est quand même un personnage profondément romantique, qu'on nous assène de manière assez, assez violente. Je pense que l'exaspération, c'est un des effets qui est peut-être intéressant. Moi, je pense que le corps de Tom Mercier, on va vraiment parler que de ça, mais il produit...
Surtout vous, là.
Non, non. Il produit vraiment quelque chose d'un effet de violence pour nous. Moi, je le vis comme une forme de violence pour moi en tant que spectatrice occidentale du vieux monde scolaire, avec des références hyper scolaires de cinéma parisien. Vraiment, je peux le vivre tout à fait comme une violence, et en même temps, ça m'intéresse totalement de vivre cette violence-là.
Florence Colombani. Non, mais j'entends, hein, ça m'étonne que vous ayez ces pensées et réflexions, mais j'écoute assidûment. Florence.
Oui, je pense que le problème du film, c'est de tellement charger le fameux Tom Mercier, dont en effet on parle beaucoup, parce que c'est son idée fondamentale, c'est cette collision, c'est de le mettre en présence. D'autres gens, de nouveaux décors, de nouvelles situations, de le faire entendre parlant hébreu, alors que pendant longtemps il s'y refuse, il finit par le faire dans pas n'importe quelle scène. Donc tout est pensé par ce biais. C'est qu'est-ce qu'on va mettre face à Tom Mercier, face à cet acteur. Et je trouve que pour moi la partie la moins intéressante, c'est vraiment cette espèce de triangle amoureux avec le couple bourgeois, parce que là on est dans une sorte de redite d'un nombre de films incalculable, mais je trouve surtout de Théorème de Pasolini, parce que fondamentalement
ça, c'est gentil,
quand même, non mais c'est la même idée. C'est la même idée.
Il y a moins de monde hein, dans leur appartement. Il n'y a pas la bonne, il n'y a pas les enfants. Ça manque de chair, tout ça.
Disons que l'idée de fond, c'est que face à deux personnages engoncés dans leur...
Ils sont très accueillants quand même. Hein.
Non, mais qui sont des incarnations d'une société qui ne serait pas érotique. Un nouveau corps jeune venant d'un autre pays va tout réenflammer. C'est une idée quand même, non seulement déjà vue, mais finalement assez peu stimulante, parce que dès le début, on a compris où ça allait. Et ça, pour moi, c'est le fil qui est le moins intéressant du film.
Ouais, mais pour revenir sur l'exaspération quand même encore un instant, moi c'est, j'aime bien être exaspéré, j'aime bien ou ne rien comprendre, j'aime bien que ça produise des effets qui vont être féconds. Et là, l'exaspération, elle est juste devant quelque chose qui ne me dit rien, qui ne m'apporte rien. Je trouve tout extrêmement, oui, littéral, et ça débouche sur quoi ? On va parler dans 15 jours ou 3 semaines de L'Époque de Mathieu Barrère, un film qui a pu m'énerver, mais qui produit quelque chose sur moi, qui produit plus de pensées, de réflexions. Là, je vois un objet très scolaire, en fait, pour le coup. Et avec ce corps, enfin, on a quand même vu du corps au cinéma depuis 40 ou 50 ans. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il fasse autant d'effets. Ça vous fait autant d'effets
Oui, parce que je pense que c'est un peu un corps pornographique. Vraiment, au début, nu, pour moi, il y a quelque chose...
On a eu François Sagat dans les films de Christophe Honoré il y a 15 ans, non?
Enfin, c'est plus par comparaison, qu'il est... en face de deux vampires, c'est-à-dire Lucio Villotte et Quentin Dolmer, c'est vraiment des Nosferatu, de la bourgeoisie française, quoi. Et du coup, ils veulent, sucer son énergie, sucer son sang, prendre son énergie, prendre ses idées, voilà, ses histoires, hein, puisque Quentin Dolmer veut se resservir de l'histoire de Yoav. Donc il y a vraiment cette idée que il déborde, c'est le surhomme presque nietzschéen, c'est la grande santé nietzschéenne, et il y a les deux petits fantômes, bourgeois qui débarquent et qui veulent se brancher sur lui pour lui aspirer son énergie. Moi, je vois ça comme ça.
Allez, un dernier mot, Lucille Comeau.
Non, moi, j'y vois même une forme de radicalité, justement, sur la question qui, a priori, est pas la question qui m'intéresse le plus, à savoir la question de l'identité. Et Dieu sait que je déteste les films qui parlent que de ça. Mm-hmm. Là, je trouve que, justement, dans la confrontation entre quelque chose d'assez simple, comme vous dites, d'assez littéral sur la question israélienne, sur ce que c'est l'État d'Israël aujourd'hui, comparé, par exemple, en l'occurrence, à la France, ça, mis, superposé avec cette question ultra-romantique de la fin d'un monde, enfin de la fin du monde occidental, d'un romantisme totalement peiné par ce qui se passe, ça crée un effet. Pour moi, ça m'a créé des effets justement de nostalgie. Vous parliez de l'époque, ça m'a pas du tout fait ça, par exemple, de nostalgie, bah de questionnement sur ce que c'est l'exil, sur ce que c'est le Heimat, quoi, le sens de la patrie, le sens de là d'où on vient. Vraiment, ça m'a créé des vrais effets, vraiment.
Mais l'époque, il peut pas y avoir de nostalgie. On va pas faire la dispute de dans trois semaines, parce que c'est justement, si on parle d'aujourd'hui, on peut difficilement être dans la nostalgie. Mais bon, je reste. J'entends tout ce que vous me dites et non, mais quel film ai-je vu ? J'ai vu Synonyme de Nadav Lapine. On souhaite pour lui et ses producteurs et ses distributeurs que beaucoup de gens le voient également. Le film est sur les écrans depuis 10 jours et peut-être aurez-vous envie de découvrir le corps de Tom Mercier et tout ce que nous donne Nadav Lapine dans ce film. Allez voir par vous-même. À suivre dans la dispute, nous allons parler de Los Silencios, un coup de cœur pour The Intruder et un petit salon de Lucille Comeau.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au cinéma, pour parler à présent de Los Silencios de Patrice Seigner. C'est le deuxième long métrage de la cinéaste après Bollywood Dream, réalisé il y a 10 ans déjà. Au début de Los Silencios, on va découvrir Nuria, 12 ans. Ça, c'est le dossier de presse qui nous le dit, parce que là, je n'ai pas donné. Fabio, 9 ans, donc on a les âges maintenant. Et leur mère, donc, qui arrive dans une petite île au milieu de l'Amazonie. L'île s'appelle Fantasia. Elle est aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou sur le fleuve Amazon, mais elle n'appartient à aucun des pays. Elle est d'ailleurs recouverte d'eau pendant un bon tiers de l'année. La petite famille a fui le conflit armé colombien dans lequel le père a disparu.
Sobrina. Yo sé pelar pescado, yo le puedo sacar la víscera, yo puedo hacer otras cosas, pues menos eso es pescar.
¿Qué costo tienen los uniformes?
A 55.
¿Cada uno?
Sí, señora.
Mi marido está desaparecido.
¿Y le encontraron el cuerpo?
Es que lo mataron los paramilitares.
Ahorita ya te he contado sobre los fantasmas de acá de la isla. Hay muchos y tienes que tener cuidado.
¡Ay,
espéreme!
¡Hueles
a pescado!
El vacío que a un familiar, un ser querido, en una familia... jamás se va a cerrar. Y jamás puedes decir que puedes perdonar.
Bon, je vais quand même tenter un tour de table, un petit tour de chauffe. Marie-Jodée, si vous avez des idées pour résumer vos impressions sur Los Silencios, mais je vais commencer pour vous laisser un peu de temps par Florence Colombani.
C'est le réalisme magique au cinéma.
Pas mal. Lucille Comeau ?
Moi, je dirais qu'il y a vraiment deux jambes, en effet, à ce film, qui est l'analyse ethnologique d'une part et la question de la magie, en tout cas un élément de fantastique. Moi, je trouve que ça manque beaucoup de souplesse entre les deux.
Muriel, vous avez trouvé ?
J'ai un mot. Ouais, tranquillité. Enfin, il y a un truc tranquille dans le film, c'est-à-dire que c'est ni lent ni contemplatif, c'est tranquille.
Pas mal, tranquille.
Merci.
Alors, sans divulgâcher le film, ma chère Muriel, est-ce que justement cette tranquillité, elle se définit comment dans le travail de mise en scène de Béatrice Seigner ?
Bah justement, dans un non-systématisme, c'est-à-dire qu'on va pas se dire il y a tout le temps des plans larges ou il y a des gros plans. Elle va alterner à chaque fois et elle va toujours chercher la meilleure distance pour filmer quelque chose. Ça peut être un visage, ça peut être un objet, avec aussi cette idée que le titre du film est programmatique. Hein, Los Silencios, c'est donc les silences. Et parfois,
vous êtes hispanophone, vous ?
Oui, voilà, je parle très bien espagnol. Et que, par exemple, quand il y a une scène de discussion, au lieu de filmer les gens qui parlent, elle va filmer les gens qui se taisent. Et ça va être un peu systématisé à tout le film, c'est-à-dire qu'on a cette petite Nuria qui est muette pendant à peu près tout le film et qui va finalement donner le ton de la mise en scène, c'est-à-dire qu'elle va passer son temps à la filmer, à filmer son regard sur une scène, sur un paysage, sur sa mère. Et au final, moi, c'est ce que ça m'a l'impression que ça m'a donné, c'est que tous ces plans silencieux qui englobent à la fois les habitations, les paysages, les objets, les gestes, tout ça finit par prendre le dessus sur le monde finalement qui parle, sur le monde qui s'exprime, et que cette part silencieuse du film va finir par faire basculer le film dans la dernière partie dont on peut rien dire, mais qui est on peut juste dire qu'elle est fantastique, et pour moi c'est ce silence qui permet le fantastique.
Alors si on dit un peu en disant réalisme magique tout à l'heure, voilà. Florence Colombani, mais est-ce que ce réalisme magique, il est, vous avez dit, au cinéma, est-ce qu'il s'adapte bien au cinéma selon vous, est-ce que c'est fécond ce mariage-là?
C'est un film très attachant et qu'on a envie de défendre, mais c'est pas un film parfait. Et je pense en effet que les deux piliers ne sont pas totalement bien ancrés. Il faut dire que c'est l'histoire d'une famille qui s'installe sur cette île de Fantasia, une île réelle, pour fuir la Colombie et les FARC. Et que donc, on est d'abord dans... un film qui pourrait être du vrai réalisme social, pour le coup. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour se reconstruire dans un contexte traumatique? Le père est mort, il y a des questions administratives à régler, il faut trouver un travail. Et donc, on est dans le concret extrême. Et petit à petit, il apparaît que sur cette île, il se passe des choses qui ont à voir avec le surnaturel. Et là, la dimension magique ne fait que croître. Or, moi, j'ai trouvé le film plus fort dans cette partie réaliste, finalement. Y a des choses très belles avec cette mère qui trouve du travail en écaillant les poissons et qui sent toujours le poisson et sa fille s'en plaint. Enfin, il y a des petits détails dans la matérialité et dans l'intimité de la vie familiale partagée qui sont captés avec beaucoup de finesse. Et c'est peut-être là, dès qu'on est dans cette part plus ouvertement magique, on est aussi dans une métaphore qu'on comprend un peu trop vite et voilà, qui me paraît moins captivante.
Les deux films, à notre sommaire, préparent le petit salon, hein, parce que ce sont des films qui parlent quand même de politique aujourd'hui, avec l'État d'Israël et de notre vieille Europe, mais aussi, alors vous dites, elle fuit les FARC, les paramilitaires, le gouvernement colombien, enfin toutes les forces en présence qui font que des gens qui sont au milieu se retrouvent assassinés, enlevés, une balle perdue, enfin... Il y a des éléments qui vont être d'ailleurs donnés dans ce film. La question de l'efficacité peut se poser. Béatrice Seigny, elle fait un film qui notamment aborde cette question-là, la question de la migration aussi et de l'accueil, de la fuite de population. Est-ce que Lucille Como, le sujet vous intéresse, vous touche dans ce film?
Le sujet en soi m'intéresse évidemment. En effet, il y a des échos, en effet, d'une actualité qui est absolument brûlante, qui est les accords de paix entre les FARC et le gouvernement colombien. Donc, c'est assez bien fait ça pour le coup. On a vent de ça uniquement via des écrans de télévision.
Très peu.
En l'occurrence, et très peu.
Très très peu.
Mais le problème, c'est que ça se voit un petit peu que c'est fait exprès tout ça, qu'on en a une toute petite substance. Moi, je pense que la question politique, elle achoppe vraiment sur le contraste entre les scènes qui sont voulues magiques et fantastiques et les scènes qui, à l'inverse, sont voulues pour soutenir le parcours de cette femme. Moi, si vous voulez, j'ai vraiment vu pas forcément une contradiction, mais en tout cas quelque chose d'assez plat entre les aboutissants de ce film, la première scène et la dernière, que je trouve vraiment très belle, et tout le milieu qui me semble finalement être réductible à un parcours de femme combattante, seule, qu'on a beaucoup vu au cinéma, dans le film social, dans toute la tradition du film social, qui m'intéresse assez peu. Du coup, je trouve que la charge politique, elle souffre beaucoup de à la fois ne pas avoir été assumée vraiment comme un objet anthropologique, ethnologique et politique, et en même temps pas non plus comme on évacue totalement la question et on fait autre chose. Et j'ai beaucoup lu d'interviews de la réalisatrice, elle parle en effet de la question du pardon, de ce que ça veut dire de pardonner après le conflit. Moi, cette substance-là, elle me reste très peu dans les doigts à la fin du film. J'ai du mal à comprendre vraiment ce qu'on veut me dire de ce point de vue-là. Après, en effet, je pense que ce qui reste d'intéressant, et aussi d'un point de vue politique, c'est les lieux. Vraiment, les lieux, pour le coup, ils sont incroyables. Mais bon, là, ça tient presque à cette espèce de chance qu'elle a eue de découvrir cette île, qui est de toute façon un décor incroyable de maisons sur pilotis, de petites routes, de petits chemins sur pilotis qu'on emprunte quand l'eau n'est pas trop haute. Une église incroyable d'architecture totalement futuriste dans la ville à côté. Enfin, cet endroit de frontière, en fait, parce que c'est une triple frontière. Tout ça, c'est intéressant. Mais c'est du décor et tous ces petits bouts-là ne sont pas vraiment reliés, selon moi.
Alors, me concernant, je crois que j'ai été pour le coup le spectateur qu'il fallait à Patrice Seignier. Moi, j'ai pas lu les interviews d'elle, mais c'est un film dont je ne vois pas les coutures. Vous dites que c'est très différencié, les scènes magiques, les scènes réalistes. Moi, je me suis fait complètement avoir quasiment jusqu'au bout. On ne révélera pas ce qui va se passer du côté magique ou du côté fantastique. Je me suis fait avoir au sens que ça m'a procuré une très très forte émotion de comprendre tout d'un coup ce que je venais de voir pendant une heure. Une heure et demie, parce qu'il y a cet effet-là quand on marche comme moi, quand on est un bon spectateur au sens qu'il se fait avoir un pas bon meilleur que vous. C'est pas du tout ce que je veux dire, évidemment. Mais cette tranquillité ou cette douceur, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Cemetery of Splendor, le film d'Apichat Pong Vera Stakul, qui, sous des dehors comme ça, extrêmement alors tranquille ou calme, était un film très profondément politique, mais qui n'avait pas besoin de panneaux pour le dire. Alors, je ne pense pas que Béatrice Seignier soit exactement au niveau d'Apichat Pong Vera Stakul, mais il y a quelque chose d'une familiarité entre ces univers qui, moi, en fait que ça me touche profondément. Et même si ce parcours, on l'a déjà vu, on l'a vu de façon soit beaucoup plus... le plus souvent de façon très réaliste. Et là, quand même, le film nous propose de... Enfin, ça décolle et moi, je me suis envolée avec Los Silencios. Florence Colombani.
Oui, moi aussi, j'ai senti quelque chose d'asiatique dans la sensualité et la façon de filmer la nature, enfin le paysage, et avec une bande-son extraordinairement travaillée et belle, une sorte d'épaisseur de différentes couches de sons et une immersion sensorielle vraiment pour le spectateur. Et dans ses plus beaux moments, je trouve que c'est vraiment un film, en effet, que l'on ressent, ce mot de tranquillité de Muriel Joudet était vraiment le bon parce qu'on atteint une sorte de plan méditatif.
Mmh. Muriel Joudet.
Oui, sur les effets, c'est vrai que moi j'ai senti qu'elle ne soulignait rien, qu'elle prenait le temps de raconter son histoire, quitte à même la raconter trop tard, mais que parce qu'elle ne soulignait pas les effets, elle laissait les choses advenir d'elle-même. Et c'est vrai que moi aussi, en spectatrice un peu naïve, vraiment jusqu'à la fin, je ne savais pas ce qui allait advenir parce que pour moi elle ne souligne rien, peut-être au risque de ne rien faire advenir pour certains spectateurs, mais il n'y a pas de surmoi d'auteur, il y a une attention d'auteur, elle est attentive à ce qu'elle filme et peut-être parfois elle se laisse tellement happer par ce qu'elle filme que l'histoire qui doit se raconter ne se raconte pas.
Il n'y a pas forcément une efficacité narrative.
Voilà, et moi ça me va très bien parce que ça me berce et voilà.
Ni politique, parce que la tranquillité, ce n'est pas une valeur politique extrêmement efficace.
Non, mais c'est une fausse tranquillité.
Je ne suis pas sûre. Moi, justement, je pense que ça pêche par le trop de tranquillité. Et par exemple, la question de l'étrangeté qui pourrait produire quelque chose d'un peu disruptif, enfin, en tout cas qui complexifie le discours, moi je le raccroche à la dimension ethnologique. Et elle en parle d'ailleurs, la question des fantômes. Bon, je ne vais pas décrire la scène finale, mais au final, on peut imaginer. Imaginez qu'elle en fait quelque chose d'inclus dans la visée ethnologique du film, c'est un rituel. Mmh. Et du coup, tout ce qui a trait au rituel, c'est pas le fantastique. Le rituel et le fantastique, c'est pas la même chose.
C'est vrai. Et alors ? En quoi c'est pas politique du coup ?
Alors,
parce que ça l'est d'autant
coup,
plus.
Il n'y a pas de contraste.
Si je vous suis.
Tout est extrêmement tranquille et l'étrangeté qui pourrait advenir à cause de, enfin, grâce à cette histoire de fantôme, à mon avis, n'advient pas. Il n'y a pas vraiment d'étrangeté. Donc du coup, le film reste sur une sorte de fil extrêmement qui se déroule en effet de manière très naturelle. Moi, ça m'a interrogé absolument sur rien. J'ai pris du plaisir à le voir. Je le trouve beau le film, mais ça ne m'interroge sur rien.
Bon, on s'arrête là sur Los Silencios de Béatrice Seignier. Qu'on vous conseille, parce qu'on conseille tous les films. J'ai conseillé d'aller voir Nadav Lapid, alors
sûr.
Je vais dire d'aller voir Los Silencios, bien évidemment. Ce film de Béatrice Seignier, on n'a pas précisé, son premier long métrage, c'est un documentaire, c'est la première fois qu'il est dans le domaine de la fiction, et il y a évidemment beaucoup de documentation, de documenté dans ce film-là, Los Silencios.
Negroes went into the Caxton High School, sat with the white children. think it can be stopped?
I've come to do what I can for the town.
Hey, nigga! Why don't you go on home?
Le coup de cœur de Muriel Joudet pour un film dont on avait envie de parler. Ce sera peut-être le cas d'ailleurs. C'est une sortie en DVD. C'est pas vraiment une nouveauté. Un Roger Corman. Faut peut-être. Je sais pas si vous l'avez prévu dans votre coup de cœur. Je voudrais pas rajouter des questions à ce que vous avez prévu, mais vous allez dire qui est le Roger Corman.
Oui, bien sûr.
Bon, The Intruder sort en DVD chez Carlotta. Muriel Joudet.
En version restaurée. Et par contre, moi, je dis Roger Corman. Et lui-même.
Vous dites Roger Corman alors.
Voilà, Roger Corman, donc il se surnommait lui-même le roi de la série B, hein, puisqu'il a réalisé en 2 décennies une 60aine de films à petit budget. Il en a produit 400 et surtout, il a lancé la carrière d'une très longue liste de cinéastes: Scorsese, Coppola, Joe Dante, Monty Hellman, et il a aussi découvert Jack Nicholson. Alors, The Intruder, qui sort en 1962, fait un peu figure d'exception dans sa filmographie. C'est le film dont il est le plus fier. C'est pour lui son film d'auteur, son film le plus personnel. Alors l'intrus que désigne le titre, qui est joué par William Shatner, est Adam Kramer, un homme tout habillé de blanc, qui débarque à Caxton, une petite ville du sud des États-Unis, où vient d'être appliquée la déségrégation. Hein, un quota d'élèves noirs est autorisé à étudier dans une université jusque-là réservée aux blancs. Alors cet homme venu de nulle part, pardon, Corman le filme comme un leader charismatique, voire même irrésistible, qui va réveiller peu à peu le racisme endormi de cette petite ville à coups de prêches et de mensonges, aujourd'hui on dirait de fake news, et transformer par la seule force des mots un peuple en meute. Et la grandité du réalisateur, c'est de filmer ce racisme comme un virus qui se propage lentement jusqu'à contaminer presque toute la ville. Et ce qu'il filme, c'est aussi un peuple qui croit se libérer, qui croit s'émanciper parce qu'il se passe de la loi. Donc en cela, le film peut être vraiment perçu comme un western. Et en grand maître du film fauché, Roger Corman met l'esthétique de la série B, son aspérité, sa frontalité, son efficacité au service de son propos. C'est un film qui est tourné dans un noir et blanc très documentaire, qui donne à toutes les scènes une texture réaliste de plus en plus terrifiante. Est aussi réaliste la manière dont il filme les visages des habitants défigurés par la haine, le racisme ordinaire, les actes terroristes du Ku Klux Klan et une scène finale de quasi-lynchage qui est rattrapée in extremis par les exigences de la Happienne, j'en raconte pas trop. Et à sa sortie, le film est un échec cuisant, notamment à cause de la censure qui empêche le film de sortir dans certains états. Et les raisons de cet échec, Corman les sait, il sait que le public n'avait aucune envie de voir un film qui parlait d'un tel sujet à l'époque, et il dit même: j'étais tellement concentré sur le sujet que j'ai oublié de faire un film divertissant. Alors, plus de 50 ans après, c'est un peu une banalité que de dire que le film est encore d'actualité. Moi, je dirais un peu plus loin, et c'est très personnel, c'est que pour moi, peu de films américains contemporains peuvent prétendre regarder avec autant de lucidité et autant d'âpreté la société américaine comme le fait The Intruder.
Ouais, vous n'avez pas dit, parce que vous avez le sentiment d'être pressé, que William Shatner, c'est quand même le capitaine Kirk de la série Star Trek.
Ah mince, pardon, j'ai oublié plein de choses.
Et Roger Corman, il a fait commencer les plus grands cinéastes, dont le plus grand, Francis Ford Coppola.
Je l'ai dit, j'ai la liste: Scorsese, Coppola, Joe Dante, Monty Hellman.
Voilà. Bon, c'est moi qui étais inattentif, le temps de noter le nom de William Shatner, que j'oubliais, dont j'oubliais de me souvenir. DVD chez Carlotta pour The Intruder, dont vous avez remarquablement parlé. Et j'aime cette touche personnelle, parce que c'est un coup de cœur.
Merci beaucoup.
Muriel Joudet. Moi, est-ce qu'on ne serait pas entré dans le petit salon de l'usine Gomo? Mais bien sûr que si.
Je le crains.
Avec ce soir, ce lancement merveilleux que vous venez de m'écrire, Je veux du soleil, acte 1 du cinéma sur les gilets jaunes.
Oui, ce n'est pas de moi, c'est le titre d'un article du Monde qui commente la sortie mercredi dernier de Je veux du soleil, donc le film de François Ruffin et Gilles Perret, tourné en quelques jours sur plusieurs ronds-points occupés par des gilets jaunes, monté à la hâte pour sortir, alors que le mouvement est encore actif et fait la une des journaux tous les week-ends. Mais outre cette sortie largement politisée et médiatisée, il a même été question à l'Assemblée nationale lors des dernières sessions du film, cela fait plusieurs mois que le cinéma se demande ce qu'il a à dire sur
les Gilets jaunes. Il y a d'abord eu un édito des Cahiers du cinéma en janvier dernier, signé Stéphane Delorme, le rédacteur en chef du journal. Un édito sorti de ses gonds, si on peut dire, qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux et souvent complètement sorti du contexte cinéphile. Stéphane Delorme y décrit comme, je cite, « le récit raconté par les médias était répugnant, la manière dont les chaînes de télévision fantasmaient la guerre civile » et terminé par une analyse de cette fameuse vidéo des jeunes lycéens de Mantes-la-Jolie tenus en respect par la police dans leur établissement. Alors, il n'était pas question directement de cinéma alors, mais d'images, de cadres, de mise en récit. Et le journal a depuis étoffé sa réflexion en proposant dans le numéro de février un dossier spécial « Filmer les gilets jaunes » avec des entretiens sur le film de Ruffin, mais aussi avec Pierre Karl, avec un journaliste blessé dans les manifestations, ou encore, plus récemment, un entretien avec le cinéaste Antonin Perret-Jacquot qui a, lui, entrepris de filmer les manifestations parisiennes en 16 mm avec une vieille Bolex. Ces démarches sont différentes, mais se rejoignent dans l'ambition d'interroger le mouvement au cœur de l'image cinématographique. François Ruffin et Gilles Perret revendiquent partout dans les articles et sur les plateaux télévisés une posture artistique et posent des questions inhérentes à tout projet de film de cinéma. Le récit, les personnages, les références, le genre même, puisque François Ruffin parle de road movie, il cite le film belge western ou L'An 01 de GB, et envisage les difficultés de son projet comme un problème esthétique. Je cite l'entretien, « la parole collective, quand elle émerge comme ça, ne donne pas forcément de bonnes choses en termes de cinéma ». Et c'est ce qui transparaît finalement à la vision de « Je veux du soleil » et à la lecture de ces textes. La complexité de l'appréhension du mouvement des Gilets jaunes semble trouver dans le cinéma moins une solution à la question de sa représentation qu'un déplacement de cette question sur le terrain esthétique. Comment cadrer ? Doit-on montrer des groupes ou des individus ? À quoi servent ces images ? Etc. Alors si on considère le mouvement des Gilets jaunes comme un défi à l'appréhension idéologique et politique, quel type de défi lance-t-il au cinéma ?
Allez, Muriel Joudet.
Alors, je préviens, j'ai vraiment pas des choses très passionnantes à raconter, mais je vais quand même essayer. Alors, moi, j'ai vu le film de François Ruffin, et je pense qu'il est efficace parce qu'il se pense comme un film d'action politique. C'est un film qui, déjà, se pense en termes d'avant-première et qui, clairement, veut installer dans les salles de cinéma des agoras où les gens discutent. Et le film a déjà fait 20 000 entrées avant même d'être sorti. C'est ça qu'il faut noter, c'est que, clairement, le film est un dispositif qui permet aux gens de parler après la projection du film. J'ai pu voir dans certaines critiques qu'on lui reprochait sa laideur esthétique. Alors, c'est là que c'est très symptomatique, c'est que le film est tourné en 6 jours, donc il y a un sentiment d'urgence, il y a une envie en fait de rattraper le mouvement, d'aller plus vite que le mouvement et puis de le relancer, de finalement redonner de l'énergie pour une sorte d'acte 2, d'où ce côté à l'arrache qui pour moi est totalement justifié de par ce qu'il montre, c'est-à-dire que c'est la parole qui compte plus que voilà le côté ornementation cinématographique. Et surtout, ce qui se dit dans le film de Ruffin, et ce qu'on voit, c'est une France qui ressemble à un No Man's Land. C'est une France extrêmement laide. Et Ruffin, heureusement, le thématise dans le film. Il dit « les pauvres peuvent manger, mais ils ont aussi le droit à la beauté ». Alors, ça paraît un peu naïf quand il le dit comme ça, mais c'est clairement ce qu'on voit dans le film. Il n'y a pas de France. Il y a clairement une sorte de... Il n'y a pas de décor. On a l'impression qu'on est sur une sorte d'autoroute perpétuelle et que c'est laid. Et pour moi, c'est ça la force esthétique du film, c'est finalement d'être laid. Voilà.
Bon, enfin,
pardon pour le voilà.
Non, mais les ronds-points sont pas les lieux les plus.
Dans le film, l'accumulation fait qu'à un moment on se dit c'est pas synonyme, quoi.
C'est pas synonyme. Un premier regard de Florence Colombani sur cette question posée par Lucille Comeau, ces questions.
Alors moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le dossier des Cahiers du cinéma, qui au fond pose la question est-ce qu'on peut faire du cinéma de l'actualité ? Parce que c'est ça, que ce soit les Gilets jaunes ou autre chose, c'est quand même ça la question. C'est qu'est-ce que c'est enregistrer le présent par le cinéma, là où c'est bien sûr la télévision qui occupe le terrain et qui accompagne et qui fait partager aussi. Au peuple concerné, les événements en direct. Et c'est là que j'arrive pas vraiment à comprendre comment la réflexion peut se faire maintenant. Il me semble qu'il faut de la distance et que justement le film de Nanni Moretti, Santiago Italia, montre comment on parle du présent en passant par le passé. C'est quand même ce qu'il fait. De façon très ouverte dans son film. Et je ne sais pas si on peut apporter des réponses contemporaines au cinéma à des événements qui sont en train de se dérouler.
Alors, dans un premier temps, avant de... Peut-être, on aura le temps, d'un deuxième, revenir quand même sur l'éditorial de Stéphane Delorme dans les Cahiers du cinéma de janvier. Oui, quand même, il écrit des choses assez ahurissantes. Hein. Les médias n'agissent que par obéissance n'agissent pas que par obéissance, mais par perplexité et bêtise, parce qu'il leur manque une case, la case politique. Bon, il manque à Delorme la case humilité quand même, parce que quand on se pose en donneur de leçons depuis son poste de rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma pour parler du peuple, ça pourrait être drôle si c'était pas aussi malvenu, vu le contexte. Le numéro de février, non mais là, c'est un autre problème. Delorme va donc interroger son héros, François Ruffin. Il est avec, Delorme est avec Quentin Papapietro pour mener l'interview à laquelle participe donc également Gilles Perret. Dans le chapeau de l'article, mais voilà, je cite. Le chapeau, les journalistes nous parlent de ce moment intense passé sur les ronds-points avec un peuple uni dans la colère et l'espoir. Ça gêne personne l'utilisation du mot peuple et de décider que ce peuple donc, qu'on désigne est uni. Quand on revendique une case politique, le manichéisme et la simplification, c'est quand même un peu compliqué.
Bon, après là, du coup, c'est un autre débat. Mais...
Ah ben non, ça commence par là. Mais après, j'ai d'autres choses à dire sur François Ruffin. Mais...
Bon, déjà, un éditorial, c'est un lieu d'expression qui est typiquement un lieu d'expression subjective où la charge politique peut totalement s'épanouir. Donc moi, je jugerais absolument pas Stéphane Delorme sur la prise de parti. C'est le lieu pour prendre parti. Donc, après, on peut estimer qu'il ne parle pas de cinéma et qu'il sort de sa fonction.
Ah non, mais ça, c'est pas le problème du cinéma, puisqu'il parle de politique.
Il donne des mauvais points que l'éditorial m'intéresse. En revanche, pour le coup, puis c'est lié, je voudrais revenir sur ce que disait Florence Colombani. Moi, je vois pas bien la comparaison avec Santiago Italia. En l'occurrence, c'est la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du mouvement qui est maintenant et pas seulement d'une actualité. C'est une actualité qui est qui est totalement fluctuante parce que profondément politique et extrêmement problématique pour tout type de discours intellectuel, et le cinéma fait partie des discours intellectuels qu'on peut éventuellement porter dessus. Et moi, bon, je n'ai pas adoré le film de François Ruffin, je le trouve problématique à plein d'égards, mais je trouve que c'est extrêmement courageux, et ça pose beaucoup de questions cinématographiques, vraiment esthétiques, de se dire, on va avec une caméra et on en fait un film qui va sortir au cinéma. Et il y a des questions de mise en scène, en effet. Après, on peut les trouver belles ou pas, on peut les trouver pertinentes ou pas d'un point de vue politique, mais il y a de vraies questions de mise en scène dans le film, et ne serait-ce que de les poser, je trouve que c'est une bonne chose. Que les Cahiers s'en emparent à leur tour, c'est le rôle des Cahiers du cinéma. Enfin, moi, je serais ravie que les Cahiers du cinéma fassent davantage ce genre de dossier.
Enfin, non, mais c'est pas la nature du dossier qui me pose problème. Merci Patron, donc François Ruffin, c'est un film qui m'avait horripilé sur la forme, mais qui avait un projet que je trouvais extrêmement louable, qui s'intéressait très concrètement à ce que c'est l'économie mondialisée, les délocalisations, qu'est-ce que ça fait sur la vie des gens. Je voyais le propos, je n'aimais pas la forme, mais bon, le sujet m'intéressait. Comment le film Les Gilets jaunes, c'est quand même autrement complexe, un mouvement qui est protéiforme, qui est changeant, qui est mouvant, qui regroupe des tas de gens qui n'ont pas grand-chose en commun. Mais Ruffin, et je reviens là-dessus, dans l'interview au Cahier, je sais bien qu'il dit qu'il veut être artiste, mais il ne parle pas tellement d'art. Il dit... est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit ? Je me suis dit François Ruffin, ça fait 20 ans que j'attends ça. Et là, parlant du tournage, on tendait le micro et on avait ce qu'on voulait. La besace était pleine. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, j'ai tendu beaucoup de micros dans toute la France avec toutes sortes de personnes pendant des années. Je ne voulais rien, sinon tendre le micro. Ça veut dire quoi ? On avait ce qu'on voulait. Ça veut dire qu'on ne fait pas de cinéma, on fait quelque chose qui est... du journalisme qui sort sur grand écran, mais si on va chercher quelque chose qu'on a déjà prévu de faire entendre.
Bah si, précisément, c'est ça le cinéma, c'est on a un scénario et on filme ce qu'on voulait faire au départ.
Donc c'est mensonge alors.
Ah mais non, c'est pas un mensonge, moi je pense que en effet François Ruffin c'est voulait pas du faire réel, un film de cinéma. Fiction. Ah bah lui, il revendique en tout cas d'avoir fait un film de cinéma après le réel,
est-ce que ça
la
veut
fiction,
dire que
je sais
du coup
pas.
C'est une fiction. Comment on doit entendre ça ?
Je pense que ça problématise clairement le problème des documentaristes en général. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que je n'ai pas envie, dans un an, d'aller en projection presse pour voir un film arty sur les Gilets jaunes. Moi, ça me déprime d'avance de voir ce film-là parce que je vois très bien les documentaristes se ruer de manière très opportuniste sur le sujet. Je sais que Emmanuel Gras, que je respecte beaucoup et dont j'aime le travail, fait un film sur les Gilets jaunes et ça va être peut-être très bien. Mais dans le lot, il y aura beaucoup d'opportunistes qui cherchent à s'encanailler auprès des Gilets jaunes. Ça pose aussi la question de les intellos, est-ce que c'est le peuple ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pourquoi ils aiment qualifier le peuple enfin les gens, les gilets jaunes de peuple, pourquoi ils ne s'intègrent pas dans ce lot-là? Il y a une sorte de fascination comme ça, un peu morbide, un peu comme ce qu'on décrivait sur, dans Synonyme, pour moi, voilà, des intellectuels, critiques, cinéastes pour les gilets jaunes. Donc je pense que les meilleurs cinéastes arriveront à capter ce mouvement. Après, pour moi, le côté gilets jaunes au cinéma, ça fait un peu cercueil. Et c'est pour ça que, à mon avis, les chaînes YouTube, les YouTubeurs qui sont vraiment assez véloces, assez rapides et assez... ils savent digérer très vite ce qui se passe. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. C'est la forme qu'il faut, c'est le médium qu'il faut. Ces gens-là qui filment et qui, clairement, sont dans l'action politique. Mmh. Donc peut-être pas le cinéma, en fait.
Mais c'est comment ?
Oui, de toute façon, il y a une concurrence énorme et Stéphane Delorme n'en parle pas vraiment dans son éditorial, non. Alors que c'est probablement ça la vraie question.
Le sujet, c'est Periscope. Moi, j'ai vu les différents actes sur Periscope, c'est-à-dire en direct, filmé par quelqu'un qui est dans la manifestation.
Et rien ne sera jamais aussi fort, de toute façon, que les scènes de violence policière filmées par un gilet jaune ou par quelqu'un qui se trouve là, ce qu'on appelle le riot porn, pardon pour l'anglicisme, mais cette espèce de volonté quasi pornographique de regarder des vidéos d'émeutes, qui est un vrai phénomène. Mmh. Et c'est drôle, parce que ça me faisait penser en préparant ce petit salon au petit salon sur les scènes de sexe où Philippe Azoury avait dit bon, de toute façon jamais aucune scène de sexe filmée au cinéma n'égalera en valeur de ce point de vue là un film pornographique. Et je pense que c'est en effet la question c'est jamais on fera Ruffin ni personne ne fera un film sur un mouvement social tel que les gilets jaunes qui sera aussi fort, aussi représentatif et aussi véridique que les vidéos YouTube qu'on peut consulter sur internet.
Non, parce que vous avez sans doute remarqué, alors pas Florence qui est pas allée voir ce film ce week-end, hein, évidemment. Olena Aekfa, les réalisateurs remercient les gens pour le dodo. Non, mais vous vous rendez compte la façon dont on bêtifie alors les gens, ce vocable qui est devenu quand même assez insupportable depuis qu'il est utilisé de cette façon-là par certaines personnes. Moi, je trouve ça horrible de comment on regarde ces gens.
Moi,
merci
je,
pour
je
le dodo.
Il y a honnêtement beaucoup d'ironie. Je vois ce que vous voulez dire en fait. Il y a
c'est
une forme
possible.
De vocabulaire.
Il y a une malhonnêteté, il y a un paternalisme qui est quand même extrêmement dérangeant.
C'est comme non, mais le titre, quand il y a la naïveté. Je pense, oui, je veux du soi. Je pense qu'il y a une vraie naïveté.
Quand
la naïveté,
sur,
c'est un vrai
regarde,
travail.
Un
la naïveté, c'est un vrai travail esthétique.
Un exemple.
C'est
quand il est sur un péage d'autoroute que les gilets jaunes rendent gratuit, François Ruffin fait une sorte de résumé complètement faussé de la question de la privatisation des autoroutes en France, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il fait une sorte de résumé assez malhonnête dans le fond pour jeter un peu plus d'huile sur le feu qui n'en a pas besoin. Donc alors est-ce que c'est pour
mais
alimenter
bien sûr
sa fiction?
Le feu, on a besoin par ailleurs, cher Arnaud Laporte.
D'accord. Donc l'idée c'est de jeter plus d'huile sur le feu en disant à des gens des choses qui ressemblent pas à la vérité.
Bon, bah là, c'est vraiment complètement un autre débat. Donc
ben non, parce que c'est ça qui est sur les écrans depuis mercredi.
Je pense qu'il veut bouger les gens, clairement. C'est pas un film qu'on va voir pour voir
c'est
un pas film
le
samedi soir. C'est un film,
le
clairement,
mouvement, ça,
pour que les gens se bougent. Par l'émotion, par des trucs, peut-être, voilà, la fin, c'est une fille sur la plage qui chante Je veux du soleil. Bon, c'est un peu cucu. Et en même temps, il cherche par tous les moyens vraiment à vraiment mouvoir les gens. Je pense que c'est son but principal. C'est pour ça qu'il fait autant d'avant-premières. Et à mon avis, il n'y a clairement pas autre chose derrière ce film qu'une envie de passer à l'acte 2.
Qui sera la campagne présidentielle de François Ruffin. Parce qu'il disait dans l'interview au Cahier du cinéma qu'il ne voulait pas être trop présent à l'image dans ce nouveau film. C'est quand même le Ruffin show.
Oui, mais en même temps, il ne le serait pas. Ce serait aussi malhonnête pour le coup. On parle d'honnêteté. Il est dans sa posture d'homme public, de personne politique. Il est député. Il a une stature institutionnelle. Pour le coup, encore une fois, d'un point de vue cinématographique, moi, je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté dans l'éthos dans lequel il apparaît.
Ouais,
je pense qu'il sait pertinemment que les gens, enfin, en tout cas, que les gens qui regardent son film, qui le regardent en général sur Facebook ou YouTube, aime avoir quand même un leader charismatique. Vraiment, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'on aime. C'est quelque chose qui peut être sain. Et aimer Ruffin, aimer sa personnalité, aimer son personnage de fiction, parce que c'est un personnage de fiction. Hein, c'est vraiment Mr. Smith au Sénat, Ruffin pour moi. Il sait qu'il doit jouer de ça et que ça fait aussi bouger les gens et qu'il a une sorte de capital sympathie comme ça à exploiter. Mmh. Moi, ça me dérange pas parce que ça fait partie des règles du jeu politique.
Oui, c'est l'ambiguïté. Alors, oui. C'est là que ça devient peut-être du cinéma.
C'est ça, voilà. C'était un Capra en fait.
Mmh. Ouais, enfin. Quand même, ne salissons pas le nom de Franck Capra.
Oui, pardon.
tout de même. Lucille Comeau, vous avez encore un mot à dire sur François Ruffin, sur les gilets jaunes. Non, mais sur la difficulté réel et fondamental de filmer les Gilets jaunes, ce qui était la question de départ. Mais d'accord, je ne vois pas quel film serait possible au cinéma.
Mais le fait qu'aucun film ne soit possible pose des questions de représentation qui sont passionnantes. Vraiment,
non, moi, ça on est d'accord, mais une fois qu'on a
presque
dit ça...
Presque autant que le film de Nadav.
Une fois qu'on a dit ça, vous conviendrez comment qu'on n'a pas dit grand-chose.
Ah bah, moi, je ne suis pas d'accord.
Non, mais c'est passionnant, mais on peut en parler toute la nuit, si vous voulez. Mais,
Moi, j'ai une piste. Attendons le Stéphane Brisé avec Vincent Lindon.
Ah non.
En Gilets jaunes. Ouais. Voilà. Attendons Cannes.
2020,
ouais, je pense qu'elle va se tourner vite, hein, comme d'hab, comme tous les Stéphane Brisé. Voilà, c'était bon. Gratuit.
Eh ben non, c'est peut-être pas si gratuit que ça. Non, mais ce sera une autre façon d'aborder cette question.
J'ai vraiment beaucoup pensé au cinéma de Stéphane Brisé. C'est totalement l'anti-film de François Ruffin, et ça pose, à mon avis, de beaucoup plus gros problèmes politiques.
Bon, là... Non, je ne vais pas réagir parce que sinon, on ne va pas rendre l'antenne à l'heure, ce qui n'est pas le but. Vous permettez qu'on ferme les portes du petit salon,
oui,
et c'est le comment
fait.
Refermons-les. Il est temps de faire gagner des choses aux gens. Parce que tous les soirs, la dispute fait gagner des choses aux gens. Mais ça, c'est vrai. Ce n'est pas de la fiction. Joséphine Dumoulin. Hier soir, vous nous posiez une question. On va vous poser une question à l'auditoire.
La question était: quel film d'Eric Koo, considéré comme érotique, est interdit aux Singapouriens de moins de 21 ans ?
La réponse était :
Hôtel Singapura.
Ce soir, nous faisons gagner des DVD du film Impulso d'Emilio Belmonte, distribué par Jour de Fête, qui est le distributeur de François Ruffin. Nous ne les oublions pas. Quelle est la question ?
De quel philosophe Rocío Molina, filmé dans Impulso, s'est-elle inspirée pour créer son second spectacle en tant que chorégraphe ?
Mais si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, ce serait quand même plus pratique. Tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin, à la prise de son Mathieu Tourin, Philippe Mercher, Philippe Thibault, réalisation Alexandre Fougeron. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Lucille Como, Fabienne Pascaud et René Solis. Nous parlerons de The Hidden Force, mise en scène d'Ivo Vanov. Onegin, c'est une mise en scène de Jean Bellorini. Un coup de cœur de Fabienne Pascaud pour Les Sorcières de Salem, mise en scène par Emmanuel de Marcimota. Et un petit salon, à nouveau, de Lucille Como, Festival d'Avignon contre Printemps des Comédiens.